Vous écoutez, on lit pour vous.
Ma démocratie est meilleure ou pire que la tienne? Un texte de Claire Durand paru le 5 août 2024 dans Le Devoir. L'autrice est professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Les médias et de nombreux chercheurs universitaires affirment que la démocratie est en déclin et même en péril. Parmi les symptômes, on évoque les dérives autoritaires, la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays, la popularité de Donald Trump aux États-Unis, ainsi que l'augmentation de restrictions aux droits, en particulier ceux des femmes et des personnes LGBTQ+, dans plusieurs pays. Il demeure qu'avant de crier au loup, il faudrait s'entendre sur ce qu'est la démocratie, quels sont ses éléments essentiels et comment la mesurer. Dans les années 1970, deux initiatives sont apparues concurremment. Freedom in the World a présenté, en 1973, un premier classement des pays sur la base de leur respect des libertés individuelles, alors que l'indice Polity, apparu en 1974, a plutôt mis l'accent sur les élections et la gouvernance. Il faut attendre les années 2000 pour voir apparaître de nouveaux indices. En 2006, la revue The Economist a proposé son propre indice, l'indice Economist Intelligence Unit, EIU, centré lui aussi sur les libertés individuelles, puis Varieties of Democracy, V-DEM, a proposé en 2014 des mesures de plusieurs types de démocratie, électorale, libérale, participative, délibérative, égalitaire, affirmant qu'il n'y avait pas qu'un seul modèle valide. Freedom House et The Economist mettent fortement l'accent sur la liberté, vue comme l'essence même de la démocratie. La vision est celle de la démocratie néolibérale où le gouvernement doit intervenir le moins possible dans la vie des citoyens. Dans cet univers, le vote obligatoire est une atteinte à la démocratie. Les indices Polity et V-DEM ont plutôt mis l'accent sur le processus électoral qui devait permettre aux citoyens de choisir librement leurs dirigeants et sur la présence de contrôle sur les élus. À cela s'ajoute, pour V-DEM, la liberté d'expression et d'association et, pour la démocratie libérale, le respect de la règle de droit. Comment procède-t-on pour mesurer la démocratie? Des experts sont mobilisés pour coder un ensemble d'indicateurs. Ceux-ci font généralement référence aux droits de jure plutôt qu'à leur concrétisation dans la pratique de facto. Si on veut mesurer l'égalité politique des femmes, par exemple, on examine si elles ont le droit de se présenter aux élections au même titre que les hommes, de jure, et non si elles le font réellement, de facto. La plupart des pays donnent formellement des droits égaux aux femmes, mais concrètement, si on regarde par exemple la proportion de femmes au Parlement, le Canada et les États-Unis, avec une proportion de 30% de femmes élues, se classent respectivement au 65e et au 72e rang des pays. Ils sont déclassés par des pays comme la Bolivie, le Mexique, le Sénégal, la Moldavie ou les Émirats arabes unis qui ont tous plus de 40% de femmes au Parlement. Or, V-DEM donne au Canada et aux États-Unis une note parfaite pour la participation politique des femmes et l'indice EIU donne une note parfaite dès que la proportion dépasse 20%. Les indices tendent à accorder plus d'importance à la participation des femmes dans les ONG que dans les lieux de pouvoir. On peut également distinguer la mesure des faits et celle des perceptions. Les indices utilisent le concept d'élection libre et juste, une perception évaluée par les experts. Des mesures plus factuelles de la démocratie électorale pourraient mettre l'accent sur la participation électorale ou l'équité du mode de scrutin. Sur ce plan, le Canada se retrouve parmi les cancres, en compagnie de la plupart des pays de tradition parlementaire britannique, étant donné la disproportion importante entre les sièges au Parlement et les votes. quelle importance? Les recherches montrent que si on utilise uniquement des mesures factuelles, on ne constate pas de déclin de la démocratie. Par contre, les perceptions des experts pour un même pays varient parfois substantiellement, d'où l'hypothèse que le climat académique et médiatique ambiant et le fait qu'ils ne résident pas dans le pays qu'ils évaluent les amènent à évaluer plus négativement les pays les plus critiqués. Enfin, nous avons tendance à penser que ces mesures sont issues de recherches universitaires libres, scientifiques, neutres et désintéressées. Or, les organisations qui produisent les indices sont essentiellement financées par le Département d'État des États-Unis et par l'Union européenne, et elles ont des objectifs politiques énoncés clairement, soit de propager la démocratie, une conception libérale de la démocratie, dans le monde. Bref, les mesures peuvent être contaminées à la fois par le financement et par les objectifs poursuivis. En quoi cela est-il problématique? D'une part, on constate que les mesures ne distinguent pas les pays occidentaux entre eux et que ces derniers servent de modèle auquel les autres pays sont comparés, sans qu'il y ait une prise en compte des origines historiques et culturelles de certaines pratiques. Or, les indices sont utilisés par les pays occidentaux et les organisations internationales pour décider de l'aide au développement des pays concernés. Si on demande aux citoyens jusqu'à quel point ils sont satisfaits de la démocratie, la donne change. Le Canada se retrouve parmi les mieux cotés en 2021, avec des pays comme le Maroc, le Kazakhstan et El Salvador, entre autres. Par contre, le Chili, considéré comme une étoile de la démocratie en Amérique du Sud, se retrouve près des derniers rangs, avec plusieurs pays d'Amérique latine et avec tant l'Ukraine que la Russie. Si on analysait l'écart entre ces perceptions et les indices experts, on pourrait sans doute mieux comprendre ce qui, dans le fonctionnement de la démocratie, rend les gens plus ou moins satisfaits. Les droits ou la réalité? Les élections ou une représentation adéquate? La liberté ou l'égalité? Et on pourrait possiblement mieux comprendre les raisons de la montée de l'extrême droite. Les organisations qui produisent des mesures de la démocratie se sont surtout préoccupées d'évaluer jusqu'à quel point les pays non occidentaux se conformaient aux normes occidentales. Il reste à comprendre pourquoi la population des pays considérés comme exemplaires est souvent insatisfaite de la démocratie telle que pratiquée. C'était « Ma démocratie est meilleure ou pire que la tienne », un texte de Claire Durand, paru le 5 août 2024 dans Le Devoir.
Un nouveau visage de la communauté anglophone au Québec révélé par la pandémie. Un texte de Marc Lafrance et Jacques Roy, paru le 5 juillet 2024 dans Le Droit d'Ottawa-Gatineau. C'est connu. La pandémie au Québec, comme ailleurs dans le monde, a exacerbé les inégalités sociales en s'attaquant davantage aux maillons les plus vulnérables de la société et en provoquant une détérioration parfois sensible de leur santé mentale et de leur bien-être. Ainsi, les jeunes, les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et celles appartenant à la diversité sexuelle figurent parmi les groupes qui ont été le plus impactés par la pandémie. Les médias ont diffusé les résultats d'études et de recherches concernant la situation de ces groupes. Cependant, il y a une absence remarquée. Les personnes issues de la communauté anglophone qui sont demeurées plutôt invisibles dans l'actualité. Pourtant, ils comptent parmi les groupes les plus affectés par la pandémie et parfois d'une manière significative. Regardons de plus près. Le syndrome du West Island. Mais avant de considérer les résultats liés à la pandémie, il importe d'opérer un bref détour historique. Dans les années 1970, les anglophones du Québec avaient un statut enviable sur le plan socio-économique. Ceux résidant dans le West Island en étaient la représentation symbolique. Avec le temps, Voilà que les données publiques tracent aujourd'hui un tout autre portrait de la communauté anglophone. Aujourd'hui, les membres de cette communauté sont plus nombreux en proportion à avoir de faibles revenus, moins de 20 000 $ par année, et à être en chômage. Selon une publication de l'Institut national de santé publique du Québec, 2012, les écarts en termes de disparité de revenus mesurés à partir de l'indice classique de Gini seraient nettement plus prononcés chez les anglophones que chez les francophones. Enfin, une étude du Patrimoine canadien, 2011, souligne que le profil socio-économique des anglo-québécois est en déclin depuis 40 ans. À cette réalité s'ajoute le métissage important de la communauté anglophone au Québec. De fait, en 2016, le tiers de la communauté était composé d'allophones. Les conséquences de la pandémie chez les hommes anglophones. Ce nouveau profil, plus défavorisé sur le plan socio-économique de la communauté anglophone, couplé au fait que l'accessibilité aux services sociaux et de santé en langue anglaise est réduite, engendre des disparités tant sur le plan des indicateurs liés à la santé mentale en particulier qu'à celui de la fréquentation des services en période de pandémie. C'est ainsi, par exemple, que, selon un sondage Somme 2021, réalisé auprès d'hommes âgés de 18 ans et plus à l'échelle du Québec, 2740 répondants, les hommes anglophones étaient davantage impactés que les hommes francophones sur nombre d'indicateurs. Les résultats de ce sondage illustrent le fait que, pendant la pandémie, les hommes anglophones, comparativement aux hommes francophones, étaient en proportion plus nombreux à enregistrer un indice de détresse psychologique élevé, 22% contre 12%, à rechercher un emploi pendant la pandémie, 10% contre 4%, à avoir un revenu personnel inférieur à 35 000 $, 38% contre 25%, à considérer difficile leur adaptation aux changements occasionnés par la pandémie, 50% contre 40%, et à avoir ressenti un impact très négatif de la pandémie sur la vie quotidienne, 17% contre 12%. Dans le même sondage sur les hommes, un portrait des pères a été présenté. Pour l'essentiel, les mêmes tendances sont reproduites. Ainsi, comparativement aux pères francophones, les pères anglophones étaient, en proportion, plus nombreux à enregistrer un indice de détresse psychologique élevé, 30% contre 13%, à avoir ressenti un impact très négatif de la pandémie sur la vie quotidienne, 34% contre 16%, a considéré difficile leur adaptation aux changements occasionnés par la pandémie, 69% contre 46%. De plus, sous l'angle des services, les pairs anglophones ont en proportion davantage reporté leurs consultations médicales après la pandémie, même s'ils jugeaient en avoir besoin. 12% contre 4%, et leur consultation psychosociale après la pandémie, même s'ils jugeaient en avoir besoin, 11% contre 3%. Parmi les indicateurs utilisés dans le sondage de Somme 2021, celui portant sur l'indice de détresse psychologique élevé est un révélateur important de l'écart existant entre les hommes anglophones et francophones. En effet, il s'agit d'un indicateur qui a valeur de synthèse de l'état de santé mentale d'un groupe donné. Or, dans le sondage national de Somme sur les hommes au Québec, Somme 2021, les pairs d'expression anglaise enregistraient avec 30% le taux de détresse psychologique le plus élevé, à égalité avec les jeunes hommes de 18 à 24, 30%, suivi des hommes à faible revenu et des célibataires, 28%, et de ceux appartenant à la diversité sexuelle, 27%. Précisons pour fin de comparaison que la moyenne nationale chez les hommes au Québec était de 14% pour cet indice. La question de l'accessibilité aux services en langue anglaise. Diverses enquêtes publiques en santé et services sociaux ont identifié des lacunes en matière d'accessibilité aux services en langue anglaise. Dans le domaine de la santé, sont observées pour les personnes d'expression anglaise notamment de plus grandes difficultés quant à la possibilité d'être affiliées à un médecin de famille, l'absence relative de spécialistes en région offrant des services en anglais et diverses difficultés de communication lors d'hospitalisation et de consultation à l'urgence. Pour sa part, en matière de services sociaux, constatant des lacunes quant à l'accès à ces services, le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 2021 recommandait spécifiquement de garantir l'accessibilité des services aux enfants et aux familles de langue anglaise partout au Québec. En conclusion, en période de pandémie, le sondage de Somme sur les hommes et les pères au Québec confirme que ceux appartenant à la communauté d'expression anglaise ont davantage été éprouvés par la pandémie sur le plan social et de la santé. Notamment, les hommes d'expression anglophone sont, en proportion, deux fois plus nombreux que l'ensemble des hommes au Québec à enregistrer un indice de détresse psychologique élevé et à rechercher un emploi pendant la pandémie. Chez les pères d'expression anglaise, outre l'indice de détresse psychologique élevé, ils sont deux fois plus nombreux en proportion que les autres pères québécois à rapporter avoir ressenti un impact très négatif de la pandémie sur leur vie quotidienne et trois fois plus nombreux en proportion à avoir dû reporter leur consultation médicale et psychosociale après la pandémie, même s'ils jugeaient en avoir besoin. Ce constat n'est pas étranger au fait que globalement, la communauté anglophone au Québec a vu dans le temps un net recul sur le plan socio-économique et que l'accessibilité aux services en langue anglaise, surtout en région, mais aussi dans les centres urbains, représente encore un grand défi rencontré par la communauté anglophone au Québec. C'était un nouveau visage de la communauté anglophone au Québec révélé par la pandémie, un texte de Marc Lafrance et Jacques Roy, paru le 5 juillet 2024 dans le Droit d'Ottawa-Gatineau.
Le Pow-Wow éducatif, célébrations et apprentissages. Un texte du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, paru le 13 juin 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. Un événement initié par Georges Couchy et organisé en collaboration avec la ville de North Bay et les quatre conseils scolaires de la région du Nipissing, en plus du Nipissing First Nation Education, Kinu-Ma'ajewin Department, accueillait les élèves de la quatrième et de la cinquième année à se réunir pour vivre une expérience authentique de pow-wow éducatif. C'est au North Bay Memorial Gardens que les communautés scolaires de la région se sont réunies pour vivre cette expérience enrichissante. Plusieurs écoles du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, CSPNE, y étaient représentées, dont Jeunesse active de Sturgeon Falls, Navigateur de New Liskeard, Héritage de North Bay et 80 de Parry Sound. De plus, certains élèves de l'école secondaire publique de Nipissing West ont également participé à cet événement significatif. Le Pow-Wow est une célébration sacrée pour la communauté autochtone. C'est un moment où les gens se rassemblent pour danser, chanter, partager et entretenir des amitiés. Pour les participants, c'est l'occasion de découvrir cette composante importante de la culture et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté autochtone. Le personnel scolaire et les élèves ont reçu des informations pour mieux comprendre ce à quoi s'attendre lors d'un pow-wow. L'animateur, Sid Bob, de Ahn Mi Taag Zi Storymakers, a encouragé les questions et a veillé à ce que l'événement se déroule dans le respect des traditions. L'événement a également permis aux élèves de se familiariser avec la langue traditionnelle et d'ainsi apprendre à dire le nom de l'événement dans la langue Anishinaabe. Enshi, Dben Daag Wag, Mnob Maadziwin, ce qui signifie où la bonne vie appartient. Pour assurer la participation de tous, les élèves ont dansé et se sont joints à diverses activités, incluant une danse de patates. Outre la danse, une compétition amicale de cris d'orignal a fait participer les élèves et le personnel. L'équipe, formée par l'enseignante Valérie Roy et l'élève Évangeline Lange de l'École publique des navigateurs de New Lisk Erd, a remporté la deuxième place dans cette compétition qui a provoqué de véritables éclats de rire. Une des organisatrices de l'événement, Mme Monique Perrault, qui est coordonnatrice de la construction identitaire au CSPNE, partage la richesse de ce genre d'expérience. C'est super de voir les élèves s'immerger dans la culture et vivre les traditions des Premières Nations et les voir revenir avec de grands sourires. Nous avons déjà des élèves qui demandent à revivre cette expérience l'an prochain. C'était le Powwow éducatif, célébrations et apprentissages. Un texte du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, paru le 13 juin 2024 dans Le Voyageur de Sudbury.
Comment remettre le travail dans sa cage? Un texte de Daniel Abril du Washington Post, paru le 23 juillet 2024, dans la presse. Le télétravail, les courriels et les applis du téléphone portable ont créé un monstre. On peut être joint 24 heures sur 24 et on pourrait travailler à toute heure du jour et de la nuit. Comment remettre ce génie dans sa bouteille et le travail dans sa cage de 9 à 5? Heureusement, la technologie distille à la fois le poison et l'antidote. Fixer des limites grâce aux alarmes. Les gens n'hésiteront pas à vous solliciter si vous êtes prêt à travailler en dehors des heures normales. C'est à vous de dire non et de fixer des limites saines. C'est là qu'interviennent les alarmes de votre téléphone portable. Parfois, l'agitation du travail fait perdre de vue ses limites. On répond aux courriels à peine sorti du lit, où on se sent obligé de répondre à une question à table durant le souper. Prenez le temps d'établir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas au travail. Parlez-en à vos collègues, à votre famille aussi, qui vous rappellera vos engagements. Programmez une alarme sur votre téléphone marquant le début et la fin de la journée. Mettez-en donc une aussi si nécessaire, pour vous rappeler de parler à votre patron de l'équilibre travail-vie personnelle. Autre truc, inscrivez vos disponibilités dans votre signature de courriel et dans le message de statut de vos applis de communication professionnelle. Indiquez clairement vos heures, le temps de réponse habituel et quoi faire en cas d'urgence. Planifiez vos messages sortants. Suivez vos propres règles. Si vous ne voulez pas de messages après les heures de travail, n'en envoyez pas à vos collègues. Que ce soit sur Slack, Teams, par courriel ou par texto, programmez l'envoi de vos messages à une heure raisonnable, après 9 heures et pas après 16 heures si vos heures sont de 9 à 5. Ainsi, tous vos échanges professionnels ont lieu durant les heures de travail. Réduisez vos notifications. Vous avez signifié vos préférences. Maintenant, utilisez la technologie pour les faire respecter. Modifiez les paramètres de notification sur vos applications professionnelles. Pas de clochette durant le souper ou quand vous jouez avec vos enfants. Outlook permet de définir son horaire jour par jour. Cela permet aux autres de savoir quand vous êtes ou n'êtes pas au travail. Les applications comme Slack permettent aussi de programmer les heures auxquelles vous souhaitez recevoir ou mettre en sourdine les notifications. Votre téléphone permet d'ajuster les notifications de chaque application. Ainsi, vous pouvez recevoir les alertes de nouvelles de votre journal préféré, mais rien du travail. Et si vous voulez le silence total, il suffit d'activer le mode concentration ou ne pas déranger. Vous êtes compulsif envers vos applications professionnelles? Limitez votre temps d'écran. Prévoyez des périodes tampons. Si vous voulez préserver les 30 précieuses minutes que vous prenez pour dîner ou éviter qu'on vous colle une réunion à l'heure où vous reconduisez les enfants à l'école, inscrivez un événement au calendrier. Ainsi, si quelqu'un tente de planifier une réunion, il verra que vous n'êtes pas disponible. Vous pouvez faire la même chose s'il vous faut du temps pour une tâche exigeant d'avoir la paix. En cas d'urgence, c'est bien de décrocher à la fin de la journée, mais prévoyez une façon d'être joint en tout temps par de proches collaborateurs et votre patron. Votre numéro personnel permet appels et textos, et il y a aussi Signal ou d'autres applications du genre, autres que Slack et le courriel du bureau. Les paramètres permettent de désigner qui sont ceux qui peuvent vous joindre, même quand vous êtes en mode concentration ou ne pas déranger. Soyez explicite à ce sujet. Ces méthodes sont pour les urgences, pas pour ce qui peut attendre demain matin, après votre café. C'était « Comment remettre le travail dans sa cage », un texte de Daniel Abril du Washington Post, paru le 23 juillet 2024 dans la presse.